Voilà, donc ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles à Marc chapitre 9, à partir du verset 14, un message que j'ai intitulé « Comment booster une petite foi ?» Comment booster une petite foi ? Et j'aimerais lire Marc 9 à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule, et les scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutiez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Et quelque lieu qu'il le saisisse, s'il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents, et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit, en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Et quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ? » Et il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Bien que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors il est dit qu'il y a un homme très célèbre qui s'appelle Georges Müller, peut-être avez-vous entendu parler de lui. C'était un célèbre missionnaire auprès des orphelins en Angleterre au 19e siècle. Il est dit que cet homme, Georges Müller, a prié pour 5 personnes afin qu'ils se convertissent à Christ. Ce n'est pas avant 5 ans de prière que le premier a donné sa vie à Christ. C'est au bout de 10 ans que 2 autres sont venus à Christ. Ce n'est qu'après 25 ans de prière que le 4e a donné son cœur à Christ. Et pour le 5e ami, il a prié toute sa vie. Puis un jour, Georges Müller est décédé. Son dernier ami ne s'est converti que quelques mois après sa mort. Pour cet ami-là, Georges Müller avait prié 50 ans. Je vous pose une question. Avez-vous déjà été frustré par le fait que Dieu ne semble pas répondre à vos prières? Ou qu'il ne réponde pas aussi vite que vous aimeriez, ou de la manière que vous aimeriez? Avez-vous parfois été tellement déçu que vous avez carrément arrêté de prier pour tel ou tel sujet? Vous êtes vous-même peut-être honnêtement posé la question si peut-être le problème venait de vous. Quoi, peut-être votre foi était trop petite par rapport à tel ou tel sujet. Eh bien, si vous avez vécu des échecs et des découragements dans votre vie de prière, alors mes amis, ce message pour vous et ce matin est pour vous. Car vous êtes en bonne compagnie. Les disciples, eux aussi, ont lutté avec l'échec dans le domaine de la foi et dans le domaine de la prière. Alors, le contexte, vous le connaissez si vous étiez ici dimanche dernier. Jésus et 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, descendent du mont Tabor. Alors, je crois que j'ai des photos, si je ne me trompe pas. Je vous avais montré le mont Tabor. C'est le mont de la Transfiguration. Il n'y avait pas un plan avec Israël. Voilà, donc on voit à peu près où il est par rapport à la mer de Galilée. Prochaine image. Voilà, donc ça c'est vraiment un mont Tabor, et la prochaine image le montre encore mieux, je dirais. Donc voilà le probable endroit où Jésus et ses trois disciples sont montés pour la transfiguration. Donc ils redescendent de ce mont et se rejoignent aux 9 autres disciples restés dans la plaine. Merci, voilà, tu peux éteindre, c'est gentil. Et là, donc ils redescendent, ils arrivent dans la plaine, et il y a une scène intéressante qui a eu lieu. On apprend que les 9 disciples ont vécu un échec en essayant de chasser un démon d'un enfant possédé. Et Jésus va prendre cet instant, ce moment, et expliquer aux disciples comment booster leur foi. Et pour rendre notre étude plus simple, je l'ai découpé en 7 parties toutes simples, d'accord ? Très simple. En fait, 10 parties toutes simples. Numéro 1, le retour. Le retour, on est au verset 14, d'accord ? On va suivre le texte comme on aime le faire, verset par verset. « Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. » Donc Jésus et les 3 disciples descendent de la montagne et reviennent là où ils avaient laissé les 9 autres disciples. Et une grande foule est réunie. On apprend que les scribes étaient présents et discutaient. Et de quoi parlait-il au verset 14? Eh bien, le texte ne le précise pas, mais le contexte suggère qu'ils discutaient du fait que les disciples avaient échoué dans leur tentative de chasser ce démon de ce jeune homme. Et donc, on peut imaginer que les scribes se moquaient, voire critiquaient les disciples, parce qu'on sait très bien que les scribes n'aimaient pas Jésus, ni la bande de personnes qui suivaient Jésus, donc ses disciples. Au verset 15, dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Eh bien, bien sûr, quand la foule est là autour des disciples en train de discuter, tout d'un coup, ils voient Jésus, ils ne s'attendaient pas du tout à le voir ce jour-là. Et donc, bien sûr, c'est lui qui prend l'attention. Tout le monde va vers Jésus parce que ils étaient habitués maintenant à ce faiseur de miracles. Ils se sont dit, ah, Jésus est là, peut-être qu'il y aura encore un miracle à voir. Donc ça, c'est le retour. 2. La question. Verset 16. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Il leur demanda. Alors, à qui précisément Jésus pose-t-il cette question ? Il y a 2 réponses possibles, parce qu'on ne sait pas trop. Peut-être à la foule qui accourt vers lui. Notons qu'il ne pose pas la question aux 9 disciples, car la foule les avait quittés pour se rendre vers Jésus. Ou bien il n'est pas impossible qu'il pose la question aux scribes. Si les scribes s'étaient joints à la foule pour aller retrouver Jésus qui arrivait. C'est probable. Dans ce cas, la question est encore plus importante et plus pertinente. Jésus, ce qu'il fait, c'est que la discussion a eu lieu entre les disciples et eux. Maintenant, Jésus accapare la discussion, la prend sur lui. C'est comme s'il disait, « Pourquoi discutez-vous avec les disciples ? C'est avec moi que vous devriez discuter. » 3. Le défi. Verset 17. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. « J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Il y a un homme dans la foule qui se charge de répondre à la question de Jésus. Et cet homme est nul autre que le père du fils possédé par un démon. Alors Matthieu 17, 14, le passage parallèle, nous décrit la scène avec des détails poignants. Je lis. « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Cet homme vient avec une posture de désespoir, il se met à genoux pour supplier Jésus. Il dit qu'il a un garçon très malade, Luc dit que c'est son fils unique. Il l'appelle un lunatique, le mot lunatique se référait à une maladie liée à la lune. C'est une croyance ancienne que certaines maladies mentales étaient provoquées par l'influence de la lune. Aujourd'hui, la médecine a identifié certaines de ces maladies, leur a donné des noms comme par exemple l'épilepsie. Ou d'autres troubles nerveux ou psychiques. Mais dans le cas de ce garçon, le problème n'est pas là, il est autre. Ce n'était pas une maladie psychique, ni neurologique. Non, Marc 9, 17 nous explique que le père avait bien décelé la nature du problème de son fils. Il était possédé d'un esprit muet, un démon. Il était possédé par un démon. Un démon, c'est un ange qui a suivi Satan dans sa chute, et on appelle ça des démons, un ange déchu qui font le mal. Et alors les conséquences pour ce garçon sont terribles. Si on met Matthieu, Marc et Luc ensemble, les trois textes, voici ce qu'on apprend. Il souffrait cruellement, l'esprit l'agitait avec violence, Luc 9, 39. En quelques lieux qu'il le saisissait, il le jetait par terre, incontrôlable, Matthieu 9, 17, Marc 9, 17. Matthieu 17, 15 nous dit qu'il tombait souvent dans le feu et dans l'eau. Donc on imagine que le corps de ce garçon devait être roué non seulement de coups et de bleus pour avoir été jeté par terre, mais de brûlures, puisqu'il était aussi jeté dans le feu. Et le feu, on utilisait à l'époque pour cuire. Donc il y avait des feux partout. Donc tout d'un coup, il était là et paf, il tombait, il était jeté dans le feu incontrôlable. Et parfois aussi dans l'eau, on apprend. Peut-être dans les puits. En plus, on apprend dans Marc 9, 18 que l'enfant écumait, qu'il grinçait des dents, qu'il devenait tout raide, qu'il poussait des cris selon Luc 9, 39. Et Luc 9, 39 nous dit aussi qu'il avait de la peine à se retirer de lui. Donc, on a l'impression que le garçon essayait de repousser le démon, mais il n'y arrivait pas. Imaginez un instant être le parent de cet enfant, et on sait qu'il est jeune, il doit être en dessous de 12 ans, on ne sait pas exactement. Imaginez regarder dans les yeux de votre enfant qui est prisonnier de son corps. Il n'a aucun pouvoir sur lui-même. En tant que parent, vous devez être là 24 heures sur 24 pour éviter qu'il se tue. C'est terrible. Alors il avait deux autres problèmes en fait, ce garçon, parce que Marc 9, 17 et le verset 9, 25 dit « Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit et lui dit « Esprit muet et sourd ». Ce démon agissait de sorte qu'il empêchait le garçon de pouvoir parler et entendre. Il n'entendait rien, il ne pouvait pas parler. Il était sourd-muet. Alors il pouvait pousser des cris, grincer des dents, mais il ne pouvait pas communiquer. Situation catastrophique. 4. L'échec. L'échec. Verset 18, en quelques lieux, qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Voici, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Avant que Jésus, Pierre, Jacques et Jean ne soit redescendu de la montagne, l'homme avait pris son enfant et l'avait amené aux 9 disciples restés en bas. Et leur demande de guérir leur fils. Et on apprend qu'ils n'ont pas pu. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Alors ça, c'est étrange. Regardez Marc 6, et le verset 7. Très important. Marc 6, et le verset 7, Jésus vient appeler ses disciples et les envoie, et il dit, alors il appela les 12, et il commença à les envoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Donc Jésus donne un pouvoir particulier à ses disciples, celui de pouvoir chasser les démons des gens, justement. C'est le pouvoir sur les esprits impurs. Et le verset 13, il chassait beaucoup de démons. Et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc, ils ont reçu ce pouvoir et ensuite ils sont allés et ils ont réussi à utiliser ce pouvoir et ils ont chassé des démons. Beaucoup de démons, c'est ce que nous dit le texte. Mais dans ce cas-ci, échec. Ils n'ont pas réussi. Quelle était la cause? Pourquoi? Bonne question. 5. La cause. 5. La cause. Verset 19. Jésus répond, « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Et on lui amena. Alors la réponse ne peut pas être plus claire. La cause de leur échec était l'incrédulité, un manque de foi, c'est ce qu'il dit. Matthieu 17, 17 le dit comme ceci, très intéressant, race incrédule et perverse, encore plus fort, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Alors il y a un changement de ton du Seigneur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Bien, le mot race déjà veut dire postérité aux générations. C'est un mot assez large, il parle du peuple. Il est en train de dire, ouais, mais vous êtes un peuple sans foi, voilà ce qu'il essaie de dire, ce qu'il est en train de dire. Et le mot pervers ou perverse, perverse veut dire tordu ou perverti. L'idée est quelqu'un qui est détourné du droit chemin. En fait, si on devait résumer ça en langage de tous les jours, on dirait, Jésus est en train de leur dire, écoutez les amis, vous êtes un peu à côté de la plaque. Mais à qui parle-t-il ici? À qui est-ce qu'il dirige lorsqu'il dit race incrédule? Eh bien, certainement aux disciples. Ils avaient montré leur incapacité de guérir le garçon malgré le pouvoir qui leur avait été donné. Mais aussi peut-être au père du garçon. Parce que au verset 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité !» Donc lui aussi, il a un manque de foi. Mais les scribes, ils en sont où eux? Ben aussi pareil. Eux certainement jubilaient à l'échec des disciples. Eux, ils avaient qu'un but de discréditer Jésus et les disciples. Ça, c'est un manque de foi, parce qu'ils ne croyaient pas au Messie. Et peut-être aussi à la foule, puisque la foule est souvent décrite dans le Nouveau Testament comme étant chercheur de miracles, c'est tout. Mais sans foi. Donc, on a l'impression que tout le monde était coupable. Tout le monde avait perverti le droit chemin. Tout le monde avait un manque de foi. Et au verset 19, Jésus dit « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je ?» Ben oui, il venait de vivre la transfiguration. Et il avait hâte de retourner dans la présence de son Père, Jésus. Et peut-être qu'il s'est dit dans ce moment d'humanité, alors pas de péché mais d'humanité, « Si mes disciples ne sont pas capables d'agir par la foi pendant que je suis encore avec eux, comment vont-ils faire pour agir par la foi une fois que je suis parti ?» Jésus est en train de dire « Aïe, 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 c'est compliqué avec les disciples. » 6. Le miracle. Le miracle. À la fin du verset 19, « Amenez-le-moi, et on lui amena. » Et verset 20, « Et aussitôt l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence et tomba par terre, il se roulait en écumant. » Le démon dans l'enfant, sachant qu'il allait bientôt perdre son contrôle sur l'enfant du fait que Jésus était présent, soudainement déchaîne sa rage sur l'enfant en le lançant dans des convulsions terribles. Verset 21, Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondait-il. » Imaginez, depuis la plus petite enfance, ce démon possédait cet enfant de cette manière. Alors ça c'est intéressant, ça veut dire que les enfants peuvent être possédés par des démons. Verset 22. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Donc là, le père reconnaît que l'intention du démon, c'est de tuer l'enfant. Parce que c'est ce qu'il dit, c'est pour le faire périr. Mais si tu peux, dit ce papa, si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Il sait que, ce papa sait que Jésus est la clé. Il sait que Jésus peut. Bon, il sait qu'il peut, mais il ne sait pas s'il veut. Alors bien sûr, Jésus répond verset 23, « Si tu peux !» Jésus souligne le fait que ce n'est pas une question de capacité, bien sûr que Jésus peut. Ce n'est pas un problème ça. Tout est possible à celui qui croit. Jésus souligne que le problème n'est pas lui, le problème c'est en fait le doute du Père. C'est un manque de foi. Et on apprend dans les prochains versets qu'une telle foi soumet sa volonté à celle du Père en toute chose. La prière de foi demande une harmonie avec la volonté de Dieu. Verset 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Ça, c'est une belle réaction, mes amis. « Je crois, c'est un cri de foi, je crois. » mais un cri qui reconnaît que sa foi est petite et qu'elle a besoin d'être élevée. Il est conscient de sa faiblesse. Et alors Jésus, voyant accourir la foule, menace à l'esprit impur, verset 25. La foule voit que quelque chose de très excitant était au point d'arriver, ils sont là, et Jésus lui dit, « Esprit muet, sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Donc Jésus ici reconnaît que l'enfant est possédé, il sait qu'il n'y a qu'un démon en lui. Dans chapitre 5, il y avait un autre homme qui lui était possédé de plusieurs démons. Certains pensent qu'il avait 2000 démons en lui parce que ces démons quittent l'homme et vont dans 2000 pourceaux. Alors on ne sait pas qu'il y en a 2000, mais il y en avait plusieurs. Ici, il n'y en a qu'un. Il lui parle directement. Il sait aussi que ce démon est un démon muet et sourd. Et c'est intéressant parce que ça montre alors que les démons ont un certain pouvoir même sur le physique des personnes. Tu peux être possédé par une, enfin tu, pas un chrétien, mais on peut être, enfin une personne peut être possédée et comme conséquence être sourd ou muet ou avoir d'autres maux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus a le pouvoir total sur ce démon. Ça c'est intéressant. Il a le pouvoir total qui révèle sa puissance totale sur le monde invisible. Ben, c'est normal, Colossiens 1 nous dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. » Ben oui, Jésus a créé les anges. Il a le pouvoir sur Satan, Job 1, et sur tous les anges et sur tous les démons. Verset 26, et il sortit en poussant des cris, en agitant avec une grande violence. Le démon veut déverser sa colère et sa rage sur l'enfant une dernière fois avant de sortir de lui. Et on apprend que l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. L'enfant est terrassé, il est assommé par la violence du moment. Tout le monde pense qu'il est mort, sauf Jésus. Verset 27, mais Jésus l'ayant pris par la main, le fit lever et se tint debout. Jésus le relève. Et cette phrase est merveilleuse parce qu'elle suggère une guérison immédiate et totale. Totale. Ce jeune garçon peut aller jouer au ballon avec ses amis maintenant. Totalement guéri, instantanément, visiblement, publiquement devant tout le monde. 7. La réaction. On la trouve dans Luc 9, 43. Luc 9, 43. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que tout le monde était, chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Ça, c'est beau. Tous furent frappés par la grandeur de Dieu. Alors, le mot grandeur, vous le connaissez. Méga leuentes. Méga splendeur, méga grandeur. C'est très, très, très grand. Qui ? Dieu. Méga grandeur de Dieu. C'est intéressant que la foule reconnaît que ce qui vient d'arriver, il n'y a que Dieu qui pouvait le faire. Alors maintenant, est-ce qu'ils reconnaissent que Jésus est Dieu ? Je ne sais pas si on va aller aussi loin que ça, mais ils sont en train de constater, waouh, Dieu vient de faire quelque chose ici. Et ils attribuent bien sûr le miracle à Jésus, par Dieu. 8. La perplexité. On retourne à 9, Marc 9, verset 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Donc après cette guérison stupéfiante, les disciples partent avec Jésus et ils se retrouvent dans une maison tout à l'heure, enfin plus tard. Et les disciples sont là, ils se grattent la tête. Ils ont réalisé que Jésus, en un coup, a pu libérer cet enfant de ce démon. Mais eux pas. Pourquoi n'ont-ils pas pu faire pareil ? C'est ça la question. Ils sont perplexes. Quel est le problème ? Alors au moins c'est honnête. Ils veulent comprendre. Surtout qu'il leur avait donné le pouvoir de chasser les démons. Alors, ils n'y comprennent plus rien. 9. La solution. La solution. Marc 9 et le verset 29. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Alors, très intéressant. La première chose qu'on apprend par cette réponse dans Marc, c'est qu'il y a des différents types de démons. Des classes différentes de démons. Hein, regardez ce qu'il dit. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Dans un autre texte, on n'a pas le temps de faire toute une étude sur ça, mais dans, par exemple, Matthieu 12, 45, parlant d'un démon qui a quitté un homme, il s'en va, il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Et il entre dans la maison, etc. Donc là, Jésus dit que il y a des démons méchants, ils sont tous méchants, mais il y en a qui sont encore plus méchants que d'autres. Déjà ça, c'est assez étonnant, vous ne trouvez pas? Donc il y a des démons méchants, puis ensuite il y a des démons vraiment méchants. Et dans Éphésiens 6, 10, on apprend qu'il y a des hiérarchies de démons. Verset 11, Éphésiens 6, revêtez tout de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, simplement pour montrer qu'il y a des démons et il y a des catégories et des hiérarchies de démons. Et il y en a qui sont pires que d'autres, bien qu'ils sont tous horribles. Et la deuxième chose qu'on apprend dans ce petit verset 29, il leur dit « cette espèce-là ne peut sortir que par la prière ». On a l'impression que les disciples n'avaient jamais eu jusqu'à ce jour d'échec dans leur ministère d'exorcisme. On a l'impression que c'était de la réussite à 100%. Ils n'avaient jamais encore tenté de chasser un démon sans avoir eu de résultat à 100% immédiat. Toutes les personnes en qui ils ont chassé des démons, bien, c'était une réussite totale, chaque fois. Mais bien sûr, Jésus leur avait donné le pouvoir, et ils l'ont utilisé, et ils ont eu du succès. Mais aujourd'hui, c'était différent. Ça n'a pas marché. Déficience de puissance, impossibilité de chasser le démon, court-circuit dans le système. Pourquoi les disciples n'y comprennent rien? Quel était le problème? Pourquoi n'ont-ils pas réussi à chasser ce démon-là? Eh bien, la réponse, on vient de la voir. Mais regardez avec moi, Matthieu 17, 20, elle est encore plus précise. Matthieu 17, 20. Matthieu 17, 20 dit « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. » Verset 21. « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Alors, reculons. Déjà, il leur dit clairement que le problème premier, c'est leur incrédulité. Littéralement, à cause de votre manque de foi. Alors, soyons très clairs. Il ne leur dit pas qu'ils n'ont pas de foi. Il leur dit qu'ils ont une petite foi. C'est très différent. Je vous explique. Ils avaient eu une foi suffisante pour être sauvés. Ils avaient eu une foi suffisante pour avoir chassé des démons avec succès dans le passé. Ils avaient même la foi audacieuse aujourd'hui parce qu'ils avaient quand même essayé de guérir le garçon. Donc on ne peut pas les blâmer de ne pas avoir essayé. Non, le problème c'est qu'ils avaient une foi insuffisante ou petite qui leur ont empêché d'approprier la puissance offerte par le Seigneur pour effectuer ce miracle-là ce jour-là. Alors ici, Jésus ne les gronde pas vraiment, bien sûr, il fait un constat sur leur petite foi, mais c'était vraiment un constat. Parce qu'il va leur donner la solution ici. Il leur explique tout simplement que la source du pouvoir pour pouvoir chasser ce genre de démons, c'est Dieu. C'est Dieu. Et la manière qu'on puise dans ce pouvoir, il le dit, c'est par la prière et le jeûne. C'est intéressant, vous ne trouvez pas? Donc, ma foi, elle est petite. Ah, tu veux la booster? Ok. Prière et jeûne pour ce genre de démons. Alors, ce n'est pas la première fois qu'ils ont été repris pour leur petite foi. Après leur âge, vous vous rappelez, là, ils étaient dans le bateau. On est dans Matthieu 8, 26. Et les disciples, ils s'approchent de Jésus, leur disent, « Eh, on périt, ils sont dans le bateau, dans leur âge. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Donc, ce n'est pas la première fois. Pauvre Pierre, lui non plus. Matthieu 14, 31. Jésus, ils sont dans un autre orage. Pierre, il dit, si c'est toi, permets-moi de marcher sur l'eau et venir vers toi. Jésus dit, ok, viens. Alors, Pierre, il dit, trop bien, j'y vais. Aussitôt, alors il est dit au verset 30, mais voyant que le vent était fort, il lui, ah non, le verset 29, viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc, on dit que Jésus a marché sur l'eau, vrai, et Pierre aussi. Donc, Pierre, il marche sur l'eau. Dur, bien sûr. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il coule, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Alors, la question maintenant, c'est ça. Comment est-ce qu'on comprend l'insuffisance ou la petitesse de la foi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je cite Hibbert. Un commentateur, il dit ceci. C'est comme ça que lui le comprend. Ayant eu du succès avec ce genre de miracle dans le passé, ils avaient pris pour acquis leur réussite à chaque fois. Du coup, ils se sont laissés aller dans l'acte de puiser intensément dans la seule puissance qui existe pour pouvoir déloger un tel démon de sa proie, la puissance de Dieu seul. Ils ont échoué de maintenir une dépendance continue en Dieu et maintenir une communion intime avec lui. Peut-être l'exorcisme était devenu presque une formule à évoquer et non pas un acte de foi et de dépendance totale en Dieu seul. Écoutez, ça j'ai pensé à moi et j'ai pensé à nous, nous qui servons le Seigneur dans les ministères X, Y, Z. On peut devenir tellement habitué dans notre service qu'on peut dire, ben voilà, moi je suis habitué. J'y arrive. Dans mon truc, je suis assez bon. Je suis rodé. Je sais comment faire. Ça marche. Et donc, il y a une sorte de routine qui s'installe. On devient presque blasé. On n'a pas vraiment besoin de se préparer. On peut venir comme ça parce que on sait faire. C'est un automatisme facile. Hibbert dit, bah, c'était peut-être ça leur problème aux disciples. C'était rodé. Il ne fallait pas se préparer, puiser dans la puissance de Dieu parce qu'ils étaient bons. C'est intéressant parce que Jésus leur rappelle que pour certains démons, il fallait une foi qui persévérait lorsque Dieu ne répondait pas aussi vite qu'il voulait. Il dit, non, pour cela il faut prier et jeûner. Certains démons, Jésus dit, sont tellement difficiles à chasser, écoutez bien, qu'ils demandent une dose supplémentaire de foi qui se traduit évidemment, comment est-ce que ça traduit la foi? Eh bien, par la prière et parfois même, pour intensifier la prière, le jeûne. Alors moi j'y pensais au jeûne, on n'en parle pas souvent, la Bible en parle, c'est quoi le jeûne? Ben le jeûne c'est un choix, une décision, de sacrifier de la nourriture ou des liquides, de l'eau, que ce soit pour un repas ou presque jusqu'à 40 jours. Jésus et Moïse ont jeûné pendant 40 jours. Ce n'est pas imposé, c'est un choix. Mais je me suis dit que lorsque quelqu'un jeûne, ça prend du temps. On jeûne pas en 5 minutes. Le jeûne implique au moins un repas, peut-être deux repas, voire trois repas. Et ça prend du temps. C'est des heures d'habitude, un jeûne. Donc, c'est la prière, hein, je sais pas, une prière, tac, on peut lancer une prière en 2 minutes. On ne peut pas jeûner en 2 minutes. Alors, certainement qu'ils avaient essayé à plusieurs reprises de chasser ce démon. Ils n'ont pas eu de résultat, donc à un moment donné, ils se sont dit, bon, bah, écoutez les gars, ça ne marche pas, on arrête. on arrête, ça sert à rien. Ils étaient là, peut-être qu'ils ont chacun essayé, ça n'a pas marché. Les gars, terminé, on n'y arrive pas. Et voilà leur erreur radicale, dit Jésus. Voilà leur erreur. Ils ont abandonné leur tentative trop vite. Au lieu d'abandonner leur tentative, ils auraient dû redoubler leur effort, prier plus intensément, voire jeûner, et continuer les tentatives jusqu'à ce que le résultat souhaité ait lieu. En d'autres termes, ils auraient dû persévérer avec assiduité. Et on sait que c'est vrai parce que c'est ce que Jésus affirme. Il dit, si vous aviez prié et jeûné, ça aurait marché. Mais ils ne l'ont pas fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chasser les démons était clairement la volonté de Jésus. Il l'a exprimé, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Il a dit, allez-y et chassez les démons. Donc, on sait que de chasser les démons, c'était la volonté explicite de Jésus. Donc, lorsque vous lisez, ou je lis, ou nous lisons des versets comme Jean 14, 14, qui dit ceci. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous connaissez cette prière, cette promesse. Super, ça veut dire quoi? Ben moi, la manière que je comprends ce verset, j'applique à moi, c'est, alors quand je prie au Seigneur, je dis, oh Seigneur, écoute, je te demande ceci, ceci, c'est John Glass qui prie. Mais au nom de Jésus, ça veut dire qu'au lieu que ce soit moi qui signe à la fin, c'est le nom de Jésus. Donc je suis en train de prier, et dans mon cœur, je sais pertinemment que ce que je suis en train de prier, Jésus le prierait si c'était à ma place. Je le prie au nom de Jésus, parce que je suis convaincu que c'est la volonté de Jésus. Ça, c'est prier au nom de Jésus. Mais ensuite, il y a 1 Jean 5, 14 qui dit ceci. 1 Jean 5, 14 qui dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc on a le droit de prier avec persévérance, clairement, fortement, longuement, pour quelque chose qui est clairement sa volonté. Et dans ce cas-ci, c'était clairement sa volonté. Alors c'est vrai, ça je vous l'accorde, c'est ça qui est compliqué. Des fois on ne sait pas si ce qu'on prie est vraiment la volonté de Dieu ou pas. Ça je reconnais. Mais il y a certaines choses qui sont la volonté de Dieu. Par exemple, je vous donne un exemple. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. 2 Pierre 3:9. Comme quelques-uns le croient, mais il use de la patience envers tous. Écoutez bien, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La volonté clairement exprimée de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Vous dites, ouais, mais tout le monde n'est pas sauvé, je sais. Est-ce que je comprends? Non. Mais c'est sa pure et simple volonté. Donc, de prier pour le salut de quelqu'un, c'est sa volonté. Et c'est peut-être pour ça que George Müller a prié 50 ans pour le salut de ses amis. Mais le problème, c'est que cet effort supplémentaire, eux, ils ont abandonné. Moi, combien de fois j'ai abandonné? Combien de fois j'ai abandonné? Peut-être vous aussi. Parce que Dieu ne répond pas comme, quand et de la vitesse qu'on aimerait qu'il réponde. Erreur majeure de notre part, dit Jésus. Il faut persévérer. 10, l'encouragement. L'encouragement. Il faut aller à Matthieu 17 pour la suite. Matthieu 17, 20. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Ensuite, au verset 21, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Mais entre les deux, il dit quelque chose que vous connaissez. Il dit ceci, je vous le dis en vérité. « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Waouh ! Alors, Jésus compare la foi à un grain de sénévé. Grain de sénévé, c'est une graine de moutarde, celle qu'on plante dans un jardin, que Jésus décrit ici. Dans Matthieu 13, 31, il nous décrit ce qui se passe à une graine de moutarde. Je vous dis, c'est assez intéressant. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle devient plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc, il dit que le grain de Sodome, c'est la plus petite des semences. Alors, dans les jardins et les champs d'Israël à l'époque, c'était vrai. Généralement, c'était la plus petite graine, selon Lenski. Nous savons aujourd'hui qu'il existe dans le monde des semences plus petites que celle-ci. Par exemple, la semence des orchidées sauvages. Mais parmi les plantes connues et semées à l'époque, c'était la plus petite. Et donc, ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est que cette petite semence, la particularité de cette semence, c'est qu'elle devient très grande. Au point où les oiseaux se perchent sur ses branches et même se mettent à l'ombre. Ça, je ne savais pas que les oiseaux se mettaient à l'ombre. Ils se mettent à l'ombre, apparemment, certains. Donc, il utilise cette image du grain de sénévé pour décrire une croissance rapide et phénoménale. Et donc, dans le texte, il utilise ça comme un exemple de notre foi. Une petite foi peut grandir. C'est ça qu'il est en train de dire. Si ta foi, tu as l'impression qu'elle est petite, ok, elle peut grandir. Et la mienne aussi. Une petite foi peut accomplir de grandes choses à fur et à mesure qu'elle grandit. Plus grand qu'on peut l'imaginer. Même, tenez-vous bien, déplacer le salève, si c'était sa volonté. C'est ce qu'il dit. Alors, il n'utilise pas le salève, mais il dit une montagne. Jésus vient de descendre du mont de la Transfiguration, le mont Tabor. Il pointe à cette montagne et dit « Tant, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Écoutez, si le fait de transporter cette montagne était clairement la volonté de Dieu, alors il n'y aurait aucun problème pour Dieu de transporter cette montagne, puisque de toute façon, c'est lui qui l'a créée. Donc, de transporter une montagne, c'est rien pour Dieu. C'est tac, tac, c'est fait. Si c'était sa volonté. Donc, la leçon, c'est qu'il faut chercher la volonté de Dieu et prier selon la volonté de Dieu. Et si on fait ça, attention, ça risque de chauffer. Parce que là, les choses vont commencer à arriver. Alors je conclue. Je crois qu'il y a trois conclusions ici. Numéro une, face à l'impasse, vous et moi, on prie pour quelque chose, il y a une impasse. Et parlons des disciples. Face à l'impasse des disciples, il y avait un mauvais réflexe qu'il ne faut pas avoir. Les disciples se sont fait reprendre par le Seigneur pour la petitesse de leur foi. Ils ont abandonné la prière. Alors je me suis posé la question, mais comment alors pratiquement et concrètement faire grandir notre foi? Alors j'ai pensé, ça va vous surprendre, à Schwarzenegger et j'ai pensé aussi à Sylvester Stallone. Vous dites, alors là je comprends pas, j'explique. Moi quand je pense à Schwarzenegger, je pense baraque, musclé. Stallone c'est pareil, musclé. Hein. Ils ont toujours, je sais pas, des monstres muscles, un peu comme moi, d'accord? Je me suis dit, mais comment faire pour avoir des muscles comme ça? Moi, écoutez, je ne suis pas né musclé comme ça. Non, on devient musclé comme ça. Comment? Eh bien, en levant des poids trop lourds. Il faut beaucoup prendre des poids trop lourds. Et souvent les soulever comme ça, au point où ça fait mal, et quand ça fait mal, il faut faire encore plus. Et si tu fais ça pendant longtemps, tu deviendras comme Schwarzenegger et Stallone. C'est ça. Et donc, c'est ce qu'il dit. Il dit, si tu veux une grande foi, eh bien, il va falloir te heurter contre ce qui semble être l'impossibilité. Et persévérer. Et soulever, et lever, et croire, et prier, et peut-être même jeûner. Il faut s'exercer avec des poids de plus en plus lourds, avoir des obstacles nécessaires. Et ça, c'est frustrant parce que moi, j'aime bien les prières. Seigneur, fait, ting, ting, réponse. Ça, c'est le top. C'est dur, n'est-ce pas? Vous connaissez cette petite histoire assez intéressante dans Luc 18. Je vais vous lire. Vraiment intéressant. 18.1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Écoutez, la parabole, elle est intéressante. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse !» Pendant longtemps, il refusa. Donc elle venait, puis il disait « Non, non, je suis pas intéressé, non, 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 non. » Donc elle venait. Elle venait. « Fais-moi justice !» Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je craigne point Dieu et que je n'ai égard à personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Et le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le jeune inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» Alors l'illustration, elle est intéressante, elle est un peu négative. Mais il est en train de dire, écoutez, c'est pour nous montrer qu'il faut prier, ne pas se relâcher. Soyez comme cette veuve, vous frappez, vous frappez, vous frappez, vous frappez. Et Dieu, en son plan, selon sa volonté, comme il veut, ouvrira la porte. Deuxième conclusion. Face à l'impasse, il y a donc le bon réflexe à avoir. Le mauvais réflexe, c'est d'arrêter. Se dire, ça sert à rien. Non, il faut continuer. Deuxième impasse, le bon réflexe, c'est quoi? C'est de faire ce que le papa du garçon a fait. Les disciples n'ont pas réussi, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la source, il est allé à Jésus. Ça, c'était très bien. Il faut aller à la source, mes amis. Il faut aller directement à Dieu. Et ça, ça mène à une troisième conclusion. Elle est intéressante. Face à l'impasse, nous serons critiqués. Écoutez bien. Ce père vient voir les disciples et leur dit « Vous êtes des disciples du Seigneur, faites quelque chose pour mon fils, comme vous l'avez fait pour d'autres dans le passé. » Ils essaient, mais ils n'y arrivent pas. Aucun des 9 disciples qui avaient été plus de 2 ans avec Jésus n'était capable de satisfaire aux besoins de cet homme. Mais il l'avait fait pour d'autres, mais pas pour lui. Comment est-ce que les scribes ont réagi? Ils se sont moqués. Comment est-ce que la foule a réagi? Probablement de la même manière, vous êtes des nuls. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous dites que vous pouvez faire. Et le père aurait aussi pu facilement conclure, mais vous êtes vraiment aussi une bande de nuls, des incapables. Il aurait pu claquer la porte et dire, c'est fini avec vous les disciples, l'Église, Dieu, Jésus, j'en veux plus. Parce que vous racontez des belles choses, mais vous ne faites rien pour les gens. Et vous ne savez pas les aider, comme moi j'ai besoin d'être aidé. Combien de fois j'ai entendu ça déjà? C'est intéressant, c'est pas ce qu'a fait cet homme. Non, lui, il réalise que les disciples n'arrivent pas, donc il va voir Jésus. Ça, c'était très bien. Alors, je vais vous dire quelque chose, ça me réconforte un petit peu. Parce que je me sens tellement comme ses disciples, et peut-être vous aussi, et notre Église aussi. Je sais pertinemment que moi, que les anciens, que les fidèles de cette Église, nous ne satisferons pas tous les besoins de chacun qui met les pieds dans cette Église. Ce n'est pas possible. Alors, on voudrait le faire. La réprimande du Seigneur auprès de ses disciples suggère que nous devrions pouvoir faire mieux, beaucoup mieux, que notre foi devrait être plus grande, que nous devrions pouvoir aider encore mieux le monde. Mais vous savez quoi? On n'y arrivera pas parfaitement parce que notre foi est en train de grandir. On n'y arrivera jamais parfaitement, ni même d'une manière adéquate. Il y aura toujours des gens, et ça me pèse, des gens déçus. Des gens qui viendront peut-être dans notre Église avec des besoins, avec des attentes, avec des demandes, et qui repartiront insatisfaits et déçus. Ils vont peut-être même claquer la porte à l'Église et dire « Ce sont des nuls dans cette Église, n'y allez pas ». Et alors pourquoi est-ce que ça m'encourage? Alors comprenez-moi, d'accord? Parce que ceci force chacun à prendre conscience du fait que le seul qui peut vraiment satisfaire à nos besoins, c'est Dieu. C'est Dieu. Nous, on est là comme des panneaux et on pointe notre doigt à Jésus. Alors, je vais tout faire pour t'aider, mais tu sais, tôt ou tard, je vais te décevoir. Mais Dieu, jamais. Dieu, jamais. Oui, on a une part dans ce travail. Et on fait tout ce qu'on peut pour essayer. Mais on n'y arrivera pas parfaitement. Donc si vous venez, vous cherchez la faille, venez, je vous donnerai la liste. Il y a plein de failles dans cette Église, il y en a plein. comme dans toutes les églises. Et si vous venez avec une liste de choses que vous voulez que l'Église fasse pour vous, vous ne durerez pas longtemps. Non, il y a trop de failles. On est comme les disciples. Mais si vous venez et vous dites, waouh, bon, j'ai trouvé une assemblée qui a plein de failles, qui est imparfaite, mais qui pointe à Jésus-Christ. Lui seul peut combler mes besoins. Alors là, peut-être vous allez trouver votre place ici. La clé, c'est qu'il faut cultiver personnellement notre relation avec le Seigneur. Puiser en lui les ressources nécessaires. Prier, jeûner. Car lui seul satisfera nos besoins. Et moi, je prie que Dieu nous donne dans cette église plein de Georges Muller. Des hommes et des femmes. Des Georges Muller qui vont persévérer. Et persévérer encore. Amen. Oh Seigneur, merci pour ce texte époustouflant, Seigneur. Ce texte pointe à une personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui qui seul peut combler tous nos besoins. Seigneur, c'est tellement beau de voir l'humanité des disciples. Avoir passé 2 ans avec Jésus et d'être face à un tel échec, Seigneur, ouais, c'est encourageant quelque part. Mais c'est aussi décourageant parce que, Seigneur, tu nous dis que on peut avoir une foi plus grande. Seigneur, je te prie pour les chrétiens dans cette église ce matin. On est certainement à toutes sortes de niveaux de foi, je ne sais pas comment le décrire, mais on peut tous grandir dans notre foi. On veut être comme ce papa qui a dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi dans ma foi. C'est ce que je te demande aussi pour moi, Seigneur. Et Seigneur, je te demande aussi pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Seigneur, je te prie qu'ils ne soient pas comme la foule ni comme les scribes pour se moquer. Non, Seigneur. Oui, ils peuvent se moquer des hommes, mais pas du Fils de Dieu. Seigneur, je te prie de briser leur cœur. Révèle-toi à eux, montre-leur leur péché. Que toi seul, tu peux pardonner ce péché et leur accorder la vie éternelle. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui sont en recherche d'église, et ça, il y en a pas mal dans cette ville. Ils ne savent pas trop atterrir, Seigneur. Moi, je te prie de les guider dans une église où ils pourront grandir dans leur foi, Seigneur. Et qu'ils viennent, pas avec le désir de critiquer, d'imaginer que l'église va pouvoir pourvoir à leurs besoins, ce ne sera pas possible. Mais que Seigneur, il réalise qu'on est là pour pointer hommes, femmes et enfants à Christ. Voilà, fais ton œuvre, Seigneur, et nous te remercions tellement, tellement et tellement encore pour la parole de Dieu. Seigneur, bénis l'après-midi, le barbecue qu'on va voir aussi, et les temps de communion fraternelle. Seigneur, fais de nous un peuple zélé et joyeux pour toi. Merci et merci encore. Au nom de Jésus. Amen.